Boîte noire.
Vous connaissez forcément la formule « Il est minuit, bonnes gens, dormez tranquille, le guet veille ». Elle fonctionne aussi bien avec « Il est 11h » ou « Il est 2h, dormez tranquille ». Bref, le guet veille. J'aimerais, avant de laisser la place comme chaque semaine au récit d'un moment de vie extraordinaire vécu par l'un de nos auditeurs, j'aimerais donc revenir sur le guet. Le guet comme guetteur. Passons rapidement sur son invention au temps de l'Empire romain où déjà il permet de surveiller une ville la nuit. Les Clovis, Clotaire et autres rois francs l'adoptent ayant compris l'intérêt de faire garder les villes par leurs propres habitants. Le grand moment du guet, que l'on appelait bourgeois, le guet bourgeois car constitué d'habitants du bourg, donc des bourgeois, le grand moment donc arrive avec Saint-Louis. En 1254, les maîtres des métiers parisiens demandent à renforcer, à améliorer le système du guet. Accordé, dit le roi. Chaque soir, le guet des bourgeois va alors s'installer dans 8 postes, 8 guérites, réparties dans le Paris très resserré de ce XIVe siècle. On estime alors la population à 220 000 habitants. Énorme en ce temps-là. Chaque soir, environ 60 bourgeois prennent place qui au Châtelet, qui dans la cour du palais de l'île de la Cité, résidence du roi, qui à la fontaine des Innocents, place de Grève, etc. Mais ce guet des bourgeois, que l'on appelle aussi guet des métiers, n'est pas très efficace. Rester assis dans une guérite, ça limite l'effet de surprise. De plus, personne n'est payé. Et la nuit blanche consacrée au guet revient toutes les 3 semaines. Et puis, tenez-vous bien, il est obligatoire jusqu'à l'âge de 60 ans. Atteindre la quarantaine étant déjà un exploit sous Saint-Louis, cela décourage les meilleures volontés. Petit à petit, des exceptions apparaissent, des exemptions. Vous savez, comme pour le service militaire d'autrefois, que l'on disait obligatoire et universel, bref, des exemptions. Logique pour commencer, les boiteux, les fous. Mais s'y ajoutent rapidement les maîtres des métiers eux-mêmes, les notaires, les procureurs et avocats, la corporation des monnayeurs, les brodeurs de soie, même les enlumineurs, les vanniers, les écrivains. La liste est longue et vous avez deviné le principe. Plus on est influent et riche, plus on obtient d'exemptions. Le guet bourgeois ne dura que 2 siècles, disparu en 1667 lorsqu'une nouvelle fonction apparaît, lieutenant général de police. Il s'occupe du nouveau guet royal, 9 brigades de cavalerie et des patrouilles, avec enfin un uniforme pour le guet. Ah, j'oubliais, tous sont vénaux. Ils sont payés pour leur travail et beaucoup plus efficaces. Souvent recrutés parmi les anciens soldats. L'expression « il est minuit, dormez braves gens, le guet veille » allait bientôt disparaître.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Cette plongée dans la nuit noire, nuit terrifiante et propice à tous les mauvais coups des ombres de la cour des miracles, ce tableau des villes la nuit, avant le bec de gaz et surtout l'électrification, pour arriver à l'histoire d'aujourd'hui. Monsieur Demba nous parle, avec la voix de notre chère Viviane évidemment, d'un Paris qui renoue quasiment avec le guet des métiers. Des hommes de bonne volonté, pauvres et mal équipés, assurent à nouveau la veille des longues nuits, là où personne ne veut aller. Mais qui veille sur eux? Une question que nous aborderons dans la dernière partie de l'émission, grâce aux informations parfois très irrationnelles de nos amis du réseau.
Madame, monsieur, si quelqu'un m'avait raconté cette histoire en m'affirmant qu'elle lui est vraiment arrivée, je lui aurais dit « Toi, tu es comme les vieux de mon village. » Les vieux de mon village, ils prennent des petits morceaux de réalité, ils les cousent ensemble avec du fil magique et ça donne une histoire. Parfois, l'histoire est drôle et les enfants qui l'écoutent rigolent. D'autres fois, elle fait peur et les enfants se serrent les uns contre les autres comme s'ils avaient froid. La France, c'est un peu le pays du froid. Et j'y suis arrivée il y a maintenant 6 ans. Et malgré mes efforts, je n'ai toujours pas de papier. C'est pour cela que je ne vous donnerai pas mon vrai nom et que j'ai échangé ceux des personnes dont je parle. Quand j'étais plus jeune, au pays, la France, je l'imaginais comme le paradis. Je me disais, moi aussi un jour, j'irai jusqu'à la mer et je réussirai à la traverser, comme certains de mes cousins avant moi. Je trouverai un travail et je pourrai envoyer un peu d'argent à ma famille. Mes parents habitent en région rurale, au nord du pays. Ils tiennent l'épicerie du village. Grâce à eux, j'ai pu faire des études de gestion et de comptabilité. Je suis le premier de la famille à avoir obtenu un diplôme de technicien supérieur. Mais depuis que je suis ici, toujours à cause de ces papiers, je n'ai pas réussi à trouver un emploi qui corresponde à mes qualifications. L'autre jour, quelqu'un m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je restais, vu la situation. Comment lui expliquer que je ne peux pas rentrer ? Décevoir ma famille. C'est moi qu'elle a choisi d'envoyer en France. C'est sur moi qu'elle a parié. Chaque billet de banque, chaque pièce qu'elle a économisée pour financer mon voyage a toujours eu plus de valeur que sa valeur marchande. L'honneur de ma mère, l'honneur de mon père et leur rêve pour nous tous. Il y a 3 mois, un de mes cousins m'a donné rendez-vous. Il s'appelle Basile. Il est en France depuis près de 20 ans et s'est fait naturaliser avant 2007. Maintenant, il a sa propre entreprise. Une entreprise privée de surveillance et de sécurité. Avec l'état d'urgence qui se prolonge suite aux attentats, Basile m'a expliqué que les militaires, les policiers, les agents municipaux sont épuisés. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Basile a récupéré de nouveaux contrats, notamment avec la SNCF et la mairie de Paris. Ce sont le plus souvent des dépannages, dans l'urgence, pour cause d'accident ou d'arrêt maladie, des missions de sous-traitance discrètes. Parmi ces contrats, il y a la surveillance nocturne de la Petite Ceinture, dans le nord-est de Paris. Cette Petite Ceinture est une ancienne voie de chemin de fer qui fait le tour de la capitale. Les trains n'y roulent plus depuis les années 90. Selon les endroits, on y trouve aussi bien des jardins, des sentiers de promenade, que des zones sales, à l'abandon. Basile avait besoin de moi pour une 15aine de jours. Je l'ai remercié, puis je lui ai expliqué que je ne pouvais pas accepter, vu ma situation, que c'était trop risqué, justement à cause de l'état d'urgence et de tous les contrôles qui se sont multipliés. Mais il a insisté, en m'affirmant qu'avec un uniforme officiel, un chien et un émetteur radio portable à ma ceinture, on me laisserait tranquille. Je devais surveiller un tronçon d'environ 5 km, pas loin de la gare du Nord. Quelques mois plus tôt, un campement de Roms avait été démantelé et les familles expulsées. Ce n'était pas la première fois. La mairie ne voulait pas qu'ils reviennent. Ces rondes, effectuées entre 19h et 7h du matin, étaient censées rassurer les riverains. Les 2 premières nuits, c'est Dylan, un étudiant, qui m'a accompagné pour m'expliquer le travail et la conduite à tenir en cas de mauvaise rencontre. Caillasseur, dealer, fumeur de crack, sans-abri ou graffeur. Le mot d'ordre était de ne prendre aucun risque. Si le chien ne suffisait pas, il fallait appeler les collègues qui prévenaient aussitôt le commissariat le plus proche. Lui, par exemple, patrouillait d'habitude de l'autre côté du tunnel qui marquait la fin de ma propre zone de surveillance. Je n'avais jamais pratiqué de sport de combat et je ne me sentais pas à l'aise avec les chiens. Ils me font peur. Je crains toujours le coup de dent sans jamais avoir été mordu. Celui que Basile me présenta le premier soir s'appelait Spock, à cause de ses grandes oreilles. C'était un Malinois, très bien dressé, qui s'est mis à m'obéir sans que j'aie à élever la voix. Je suis pourtant certain qu'il sentait ma peur. Dylan est passionné de street art. Il m'a expliqué un tas de choses sur les graffeurs. D'ailleurs, parfois, il fait semblant de ne pas les voir quand il patrouille. Il les considère comme des artistes. Pour moi, jusqu'à ce premier soir de patrouille, ses traits, ses signatures, ses coulures de peinture n'étaient que du vandalisme, ce qui, selon lui, prouvait que je n'y connaissais rien. Il m'a donc invité à entrer dans un hangar désaffecté situé sur notre parcours, un ancien entrepôt promis à la démolition. Là, à la lumière des lampes torches, j'ai découvert une peinture qui couvre trois murs. On y voit un arbre gigantesque. Il se détache sur un ciel bleu. Sur ses branches, qui n'en finissent plus, se tiennent toutes sortes d'animaux endormis. Il y a un ours blanc, blotti contre un zèbre, un pingouin, entre les pattes d'un tigre, des dizaines d'oiseaux, de singes, de loups, des cerfs, des souris, des lapins, et tous ont les yeux fermés, semblent se reposer. Animaux du nord et du sud, rassemblés. Et, au milieu d'eux, assis sur une fourche de l'arbre, il y a un jeune homme africain, hilar, les yeux grands ouverts. Un jeune homme albinos qui porte des dreadlocks, presque blanches. Dylan m'a précisé que c'était l'auteur de cette peinture et qu'il était mort peu après sa réalisation, poignardé. Dylan aimerait créer une association pour sauver les œuvres de quelqu'un, écrit K-E-L-K-1, le pseudonyme qu'il s'était choisi en tant que graffeur. La première nuit où j'ai fait ma ronde, seulement avec Spock, je me suis dit que j'avais de la chance. Il pleuvait et j'avais l'impression que ce temps me protégerait contre les mauvaises rencontres. Je marchais au bord du ballast, en levant souvent la tête vers la pluie et la lumière. Les rues et les immeubles surplombant l'ancienne voie ferrée d'environ 6 à 8 mètres dans ce secteur. J'avais la sensation d'être au fond d'un trou, d'une tranchée. De part et d'autre, on ne voyait qu'un haut mur de soutènement, en briques, couvert de tags et de graffitis. Je passais sous quatre ponts pendant cette ronde et devant un poste d'aiguillage, lui aussi entièrement tagué, fenêtres cassées, portes condamnées. Ensuite, il y avait le hangar à la fresque où je me devais d'aller jeter un coup d'œil. Puis, le tunnel. Je n'étais pas obligée d'y pénétrer. Je devais juste en balayer l'entrée avec ma lampe. Je veillais sur de la rouille et de la poussière, des cailloux, des mauvaises herbes et des choses cassées. Une mémoire qui n'était pas la mienne. Les nuits où Dylan patrouillait, il m'appelait parfois vers 3-4 heures du matin sur mon téléphone portable. Ce sont les heures les plus dures, celles où l'on se sent le plus fragile. On ne parlait pas longtemps, mais cela me faisait du bien d'entendre une voix amicale. L'entrepôt avec la fresque était le moment de cette ronde que je préférais. J'y restais souvent plus longtemps que nécessaire, promenant le faisceau de ma lampe le long des branches de l'arbre. J'aimais prononcer à voix basse et dans ma langue maternelle le nom des animaux.
Niaï, éléphant. Bouki, hyène. Melentane, fourmi. Sekou, perroquet. Ngaïndé, lion, Ndiamala, girafe.
Il me semblait alors que les sons changeaient autour de moi. Je n'entendais plus la ville, la pluie ou la circulation, juste un bruissement, lointain. Quelque chose de chaud et de sec qui me cueillait gentiment, puis me repoussait, comme une vague qui passe. Pour tout cela, à chaque fois, je remerciais quelqu'un. Et puis un soir, j'ai vu le vieux bonhomme. Il se cachait sous un pont. Un vieux blanc, échoué sur des cartons, ficelé dans des manteaux qui sentaient mauvais. Spock, le chien, l'a reniflé sans gronder. J'aurais dû lui demander de se lever. J'aurais dû le raccompagner jusqu'en haut de l'escalier. C'était la consigne. Suivre cette consigne, c'était honorer le contrat passé entre la mairie et Basile. Remplir la mission que Basile m'avait confiée. Protéger la petite ceinture de toute dégradation, de toute menace, veiller à la tranquillité des riverains. Est-ce que ce vieux mettait en péril l'intégrité de la petite ceinture? Est-ce que ce vieux menaçait la sécurité du quartier? J'ai réfléchi comme un juré dans un tribunal et j'ai décidé que le vieux pouvait se rendormir. Qu'il était comme la rouille et la poussière, les cailloux et les mauvaises herbes. Un élément de cette mémoire qui n'était pas la mienne. Dans ma tête, j'ai pensé, lui, il a des papiers. Mais à quoi lui servent ces papiers? Je l'ai revu à plusieurs reprises, toujours au même endroit. En passant, je m'assurais juste qu'il n'était pas mort. À deux reprises, je me suis fait caillasser par des adolescents. Ces petites bandes viennent passer leur rage sur des pierres déjà esquintées, des vitres déjà brisées. Spock les a fait fuir. Ils m'ont crié toutes sortes d'insultes en décampant. Cela ne m'a pas vexé. Et puis, un vendredi soir, j'ai eu ma dose d'épouvante. La nuit était pourtant douce, avec une lune presque pleine. Le vieux bonhomme dormait à sa place, tout comme les animaux sur la fresque du hangar. Dylan m'a téléphoné vers 2 heures. Vers 3 heures, je me suis retrouvée à nouveau dans le hangar. J'avais décidé d'y rester le temps d'une pause, sandwich, café. Spock s'était assis. J'avais l'impression que lui aussi prenait plaisir à regarder les animaux sur la fresque. Et puis il y a eu un bruit, derrière le mur. Spock s'est remis sur ses pattes en grondant. Chut! Lui ai-je murmuré. Le bruit a recommencé. Il y avait quelqu'un. Je savais qu'il fallait que j'y aille. Mais j'ai commencé à avoir peur. Je savais qu'on pouvait faire le tour du hangar. Je l'avais fait avec Dylan la première nuit. Ensuite, on n'y était pas retourné. Et j'avoue que j'avais complètement oublié ce point de ma ronde. Derrière, il y a un espace d'environ 6 mètres entre le bâtiment et le mur de soutènement. La lumière des réverbères n'éclaire pas ce petit passage jusqu'au sol. S'y trouvent de vieux rails entassés, du bois pourri, des gravats. Ils forment un tas qui monte contre le hangar. Un jeune type titubé, debout, sur ce tas. Par terre, 2 autres types, avachis. Je ne sais pas ce qu'ils avaient avalé ou fumé, mais ils ont protégé leur visage avec leurs bras quand j'ai braqué ma torche en gueulant. Spock s'est remis à gronder. Je lui ai ordonné de s'asseoir. Il m'a obéi. Puis, j'ai fait ce que l'on m'avait conseillé de faire dans pareil cas, dire calmement que je ne voulais pas d'embrouille et qu'il fallait qu'il s'en aille, parce que sinon, je serais obligée d'appeler la police. Ils ont commencé à rigoler, à se moquer de moi, à m'insulter. Spock s'est remis à gronder. Celui qui était debout s'est contenté de s'appuyer contre le mur du hangar. Il a dit « ça commence à me saouler », tout en sortant une arme de sa veste. Et ce qui m'a le plus effrayée sur le coup, Ce n'est pas l'arme elle-même, mais la désinvolture avec laquelle il la tenait, comme si c'était un objet insignifiant. Et lorsqu'il a tiré sur le chien, il l'a fait comme si ce n'était rien, visant ses pattes avec assurance. Ce n'était pas l'attitude de quelqu'un qui a peur, qui panique. Spock s'est mis à japper de douleur, des cris aigus insupportables. J'étais tétanisée. Deuxième balle. Spock est tombé sur le flanc en geignant. Un des deux types par terre a dit « On s'arrache !» Ils ont essayé de se relever, s'accrochant l'un à l'autre, affolés. Le tireur, lui, toujours très tranquillement, leur a ordonné de se calmer et de prendre ma lampe. Il s'en est saisi, puis a légèrement modifié son angle de tir. C'était moi qu'il visait maintenant. La balle a pénétré dans ma jambe gauche, un peu sous la rotule. J'ai crié, je suis tombée, ensuite, c'est un peu plus confus. J'avais mal, je crois que je me suis recroquevillée, les yeux fermés, une main appuyée contre ma blessure. Je sentais le corps du chien contre moi. Il était encore chaud. Et puis, une voix a dit « Il y a un problème ?» Et ce n'était pas la voix d'un des trois types. J'ai ouvert les yeux. À l'entrée du passage, en contre-jour, il y avait une ombre. Celle d'un homme. Il n'était ni très grand ni très costaud. Le tireur a braqué la lampe dans sa direction. C'est là que je l'ai reconnu, l'albinos de la fresque, quelqu'un. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, cela m'a semblé naturel. « Vous feriez mieux de partir », a-t-il dit. Le tireur a répliqué « Toi aussi tu me saoules !» et lui a tiré dessus pendant que ses deux copains s'enfuyaient. Quelqu'un a continué d'avancer lentement comme si de rien n'était. L'autre a tiré encore. D'où j'étais, je le voyais de profil. Une rage proche de la folie tendait son visage. Je ne sais pas combien de fois il a tiré, combien de balles il a fallu pour qu'il comprenne qu'il ne pourrait pas le tuer, que les balles ne faisaient que traverser son corps. Quand ce moment est arrivé, il a dégringolé le tas de gravats en hurlant pour s'enfuir à son tour, et il m'a semblé que cette fuite durait longtemps. Quand j'ai regardé à nouveau en direction de quelqu'un, il n'y avait plus personne. Peu après, Dylan est arrivé. Il avait prévenu la police en entendant la fusillade. Il a déchiré mon pantalon et m'a examiné. J'avais eu de la chance. La balle était ressortie et l'os n'avait pas été touché. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai souri et j'ai fait comme les vieux de mon village. J'ai pris des petits morceaux de réalité et je les ai cousus ensemble avec du fil magique. Après, je lui ai demandé de me laisser partir. Je crois qu'il a compris pourquoi. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé avec la police et Basile ne me l'a pas expliqué non plus. Mais apparemment, ça va. L'autre nuit, je suis retournée voir la fresque. J'ai remercié quelqu'un et je lui ai annoncé que j'allais partir. Non, je ne rentre pas au pays. Cela, je vous l'ai dit, je ne le peux pas. Je vais tenter ma chance ailleurs, là où j'ai d'autres cousins. Cordialement. Joseph Damba.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Un veilleur de nuit qui doit la vie au personnage d'une fresque. Voilà le genre de récit que nous apprécions dans Boîte Noire. Cela étant dit, il est temps de nous interroger. De quelle nature était le sauveteur de Joseph Damba ? Était-ce le fantôme de quelqu'un ? Orthographié, je vous le rappelle, K-E-L-K-1, prononcé quelqu'un. Et d'abord, qui se cache derrière ce pseudonyme, très chère Viviane, derrière ce blaze, comme on dit dans l'univers du street art ? Est-ce que nos amis du réseau ont retrouvé sa trace ?
Oui, avec une mauvaise nouvelle, Melchior. Quelqu'un ? Et permettez-moi de taire son vrai nom, puisque ce jeune homme tenait à l'anonymat. Quelqu'un est né à Montreuil. Il avait 26 ans au moment où il a été bel et bien assassiné. Mais ce détail a son importance, il n'est pas mort à Paris. Selon nos amis du réseau, il a été poignardé à Lyon, alors qu'il réalisait une autre fresque. Dans le milieu, quelqu'un est surtout connu pour ses représentations d'animaux. Il avait l'habitude de peindre de grands formats très réalistes. La fresque de la Petite Ceinture à Paris est sa seule œuvre où figure un être humain.
Lui, en l'occurrence.
Oui.
Alors, est-ce que c'est son fantôme qui a sauvé la vie à Joseph Demba ?
Non, nous ne le pensons pas. Un fantôme, comme vous le savez, est un être coincé entre ici et ailleurs. Coincé à proximité du lieu où il a trouvé la mort. Si le fantôme de quelqu'un devait tenter un endroit...
Oui, ce serait à Lyon et non à Paris, j'ai compris. Alors, que proposez-vous ?
D'abord, il est intéressant de souligner que le thème des tableaux hantés, animés d'une vie propre, nourrit depuis longtemps notre imaginaire.
Dans l'univers d'Harry Potter, ces tableaux semblent aller de soi. Mais dans la vraie vie, les histoires qui circulent à ce sujet sont plus effrayantes, j'imagine.
Prenez par exemple The Crying Boy, l'enfant qui pleure, un portrait d'orphelin réalisé dans les années 60 par l'artiste italien Bruno Amadio. Ce tableau a la réputation d'être maudit.
Ce tableau et même ses reproductions, puisqu'il y en aurait, selon le journal anglais The Sun, plus de 50 000 exemplaires. Et ces reproductions provoqueraient des incendies. Une cinquantaine de sinistres au début des années 80.
Et le plus étonnant, c'est qu'au milieu des cendres, le seul objet à demeurer intact, c'est le tableau lui-même. Bon, il y a quand même eu des pompiers pour expliquer que, comme cette repro a été imprimée sur un panneau très dense, il était naturel qu'elle ne brûle pas. Ce qui est intéressant à travers ces récits, c'est leur caractère effrayant. À croire que sous nos latitudes, nous préférons trembler plutôt que rêver. De l'autre côté du globe, en revanche, les tableaux enchantés, les peintres qui entrent dans leurs toiles, naturellement pour en rectifier tel ou tel autre détail, les animaux peints ou dessinés qui prennent vie, sont légions depuis des siècles, et pas forcément dans le but de susciter de l'effroi.
Sans doute à cause du taoïsme, ce courant de pensée entre philosophie et religion, qui recommande, outre la frugalité et le respect de la nature, de s'ouvrir au merveilleux.
Pour les Chinois, le but d'un artiste, c'est de peindre la vie en saisissant son souffle. Créer une statue, un tableau, une estampe permettrait d'unir indéfectiblement le créateur et l'objet créé.
Mais seulement dans le cas où l'artiste a réussi à travailler avec son âme et réussi à se connecter avec l'âme de son sujet. Ce qui semble avoir été le cas de quelqu'un.
C'est vrai qu'au dire des connaisseurs, contactés par nos amis du réseau, les graves de quelqu'un dégagent quelque chose qui va au-delà de la finesse ou du réalisme de son trait.
Alors, pourquoi ne pas supposer que quelqu'un ait réussi à insuffler à son double, sur la fresque, cette magie qui lui permet de vivre ailleurs, sous une autre forme ?
On peut donc supposer que la souffrance du chien, cette nuit-là, sa mort, et la terreur de Joseph Demba, face à ses agresseurs, ont réussi à se faufiler jusqu'à cet ailleurs et à créer une passerelle qui a permis à quelqu'un d'intervenir.
Avant de nous quitter, je dois revenir sur une hypothèse concernant l'apparition de quelqu'un. Vous vous en souvenez, Joseph Demba vient de voir son chien exécuté sous ses yeux et lui-même a reçu une balle sous le genou. Additionnez le stress, l'effroi, la douleur, la fatigue aussi, il est plus de 2h du matin. Peut-être M. Demba a-t-il tout simplement perdu connaissance. Un coma de quelques secondes ou de quelques minutes. Le tireur a pu continuer de parler seul, de répéter « Toi, tu me saoules !» de tirer aussi à côté de Joseph Demba ou en l'air. Tous ces sons font leur chemin dans la tête du vigile, pendant son inconscience. Et à quoi de bienveillant peut-il s'accrocher à proximité ? À cette fresque, bien sûr, devant laquelle il est venu si souvent chercher le calme et le réconfort. Merci cette semaine encore à notre très chère Viviane qui nous a emmenés à la lueur d'une lampe torche dans les pas des guetteurs, des veilleurs d'aujourd'hui. Merci à nos amis du réseau pour ces informations allant des tableaux maudits à l'enchantement taoïste. Merci à tous de nous écouter, de nous écrire, de ne pas hésiter à nous raconter ces moments extraordinaires. Vous le savez, Boîte Noire est un enregistreur et un diffuseur de vos récits, sans jugement, un lieu de partage et d'enrichissement mutuel. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient la semaine prochaine, dans cette dimension, ou dans une autre, qui sait ?
C'était Boîte Noire,
Une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher, avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Miles Davis, Mr. Pastorius et Où aller, où de Tiken Jab Fakoly.